La recherche Redisco, donc religion, discrimination, racisme en milieu scolaire, a comme première caractéristique d'être une recherche partenariale. Alors, le projet initial a été élaboré par le laboratoire Éducation Culture Politique, qui rassemble des chercheurs de Lyon 2, de l'ENS, de Lyon 1, de l'ESPE Lyon 1 et de l'UJM, c'est-à-dire de l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne. Et nous avons tout de suite organisé un partenariat, et c'est grâce à ce partenariat que cette enquête a pu se développer avec l'Institut français de l'éducation, et particulièrement avec le Centre Alain Savary, et ce qui nous a permis de travailler avec des chargés d'études de l'IFE qui sont liés au Centre Alain Savary, dont Stéphane Cusse et maintenant Aïda Carcache. C'est un partenariat aussi avec un autre laboratoire, un laboratoire de psychologie sociale. Le laboratoire éducation culture politique est un laboratoire, lui, de sciences de l'éducation, donc pluridisciplinaire par définition. Et puis, un partenariat avec des universités étrangères, trois universités brésiliennes dont vous entendrez parler cet après-midi, une université québécoise, l'université Trois-Rivières, et la Haute École de Lausanne, dont vous entendrez deux représentantes. Le financement d'une telle enquête n'est possible que s'il y a des partenariats. Et là, en l'occurrence, le financement est venu de l'Université Lyon 2, bien sûr, mais aussi de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, donc, qui a permis de financer une bonne partie de l'enquête. Et l'ENS y fait, notamment par le moyen d'heures données par la DGESCO, c'est-à-dire le ministère, qui a permis d'associer des enseignants de terrain à la recherche. On expliquera tout à l'heure comment. Dire aussi que cette recherche, elle a été accompagnée par un comité de suivi. Comité de suivi qui comportait des personnalités qui n'étaient pas liées strictement à la recherche, mais qui pouvaient être élus, qui pouvaient être formateurs, qui pouvaient être chefs d'établissement, inspecteurs, et auxquels on a présenté, représentants de la DILCRA aussi, auxquels on a présenté les résultats de façon régulière, une fois par an au moins, on a réuni ce comité pour leur dire où on en était. Et enfin, nous avons créé un site propre à la recherche, dont s'est beaucoup occupé Sébastien Rubenski, que vous entendrez tout à l'heure, et qui nous a permis de faire connaître la recherche, et je vous invite à y aller parce que vous trouverez des ressources. Alors, pourquoi enquêter sur les religions, les discriminations, le racisme en milieu scolaire? Alors, il y a d'abord un contexte et puis quelques constats que je voudrais rappeler pour resituer ce projet. D'abord, pour ce qui concerne la France, nous sommes dans une société sécularisée depuis déjà bon nombre d'années, c'est-à-dire dans laquelle la religion ne sert pas de point de repère, et dans une société aussi qui est caractérisée par le fait que la majorité de la population se déclare non-croyant, pas forcément athée, mais en tous les cas n'appartenant pas à une religion. Nous faisons partie de quelques pays dans le monde où la majorité de la population se déclare ainsi. Autre caractéristique de notre société, comme les sociétés démocrates, toutes les sociétés démocratiques dans le monde, elle est caractérisée par un pluralisme religieux et culturel. Nous sommes dans une société ouverte et ce pluralisme religieux, il n'a cessé d'augmenter avec l'accueil de populations variées au fil des besoins économiques et sociaux du pays qui a accueilli donc ces populations. Troisième point à noter dans le contexte, c'est que l'existence de discrimination a fait l'objet d'une politique active à partir de la fin des années 90. Depuis 1998, il est reconnu officiellement qu'il y a des discriminations à fondement ethno-racial, comme il est dit dans le rapport du Haut Comité à l'intégration en 1998. Et à partir de ce moment-là, il est décidé que la lutte contre les discriminations allait devenir un nouvel axe de l'action publique. Quatrième élément de ce contexte et de cet état des lieux, c'est un état de la littérature scientifique qui est désormais abondante et qui va dans le sens d'une confirmation ou qui a soutenu les réflexions sur l'existence de discrimination, si on s'en tient aux discriminations. Moi, je voudrais attirer votre attention sur deux points dans cette littérature abondante. Le premier point, c'est qu'il y a des questions publiques, comme par exemple la réussite scolaire, qui, insidieusement ou pas, sont transformées en problèmes du public. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce n'est plus le problème de la réussite scolaire de tous les élèves, mais ça devient le problème des élèves musulmans. On voit qu'on change de catégorie. Et notre recherche avait pour but de voir qu'est-ce qu'il en était sur le terrain de ces catégories qui, dans le débat public, ont émergé et ont eu tendance à fabriquer des boîtes dans lesquelles on met des gens. Deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est dans la littérature scientifique. Il y a un élément qui me semble intéressant pour notre travail, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'actions publiques de défense des droits que d'actions centrées sur les situations elles-mêmes. On sait bien que les discriminations relèvent de la question des droits, de l'égalité des droits, mais par contre, qu'en est-il des situations concrètes, des situations quotidiennes ? Cinquième élément, c'est que la situation actuelle dans nos sociétés est caractérisée par l'expression de demandes de reconnaissance de groupes minoritaires, qui sont moins minoritaires qu'il y a 100 ans et qui, tout à fait normalement, étant donné un effet de nombre et un effet d'affirmation sociale, expriment un certain nombre de demandes. Sixième point, ces questions, religion, discrimination, racisme, font l'objet de débats publics, de polémiques. Et on peut dire que la question des religions à l'école est devenue quasiment un marronnier des médias où régulièrement il revient des articles, et c'est le septième point, en portant l'attention sur des difficultés d'enseignants face à telle ou telle question qui a trait aux religions, beaucoup plus d'ailleurs qu'aux discriminations ou au racisme. Donc dans ce contexte, et à partir de ce constat, il faut noter aussi qu'il y a une action publique en éducation qui a été conduite et que la recherche dont nous allons vous parler se situe dans le cadre de cette action publique. Elle ne peut pas l'ignorer. L'action publique a porté depuis la fin des années 90 surtout, à la fois sur le curriculum, sur la vie scolaire, sur le règlement, la dimension réglementaire, sur la production de ressources, notamment à partir du site EduSchool, qui est lié au ministère, mais il y a bien d'autres sites qui produisent des ressources, et également la production de dispositifs. Donc on voit qu'il y a eu une politique très active des ministères successifs qui ont voulu traiter de questions de discrimination, de religion, voire de racisme. Alors je vous donne quelques exemples. Les dernières années, il y a eu une campagne très importante contre le harcèlement à l'école. Et lors de notre enquête, nous avons été témoins de la présence de cette campagne de façon assez importante, ne serait-ce que par l'existence d'affiches dans les collèges, par exemple, ou d'actions qui se manifestaient de différentes façons. Pour le curriculum, c'est bien sûr le socle commun des connaissances, des compétences et de culture qui a mis au premier plan la volonté de construire une culture commune. Et à travers la construction de cette culture commune, de fabriquer la société, en quelque sorte, de fabriquer, comme disent les journaux et les politiques, du vivre ensemble. Donc ce projet politique s'est transformé, en quelque sorte, a été traduit dans le curriculum. De façon plus précise encore, il y a eu la création d'un enseignement des faits religieux suite au rapport de Régis Debray en 2002 qui lui parlait de l'enseignement du fait religieux et qui s'est transformé ensuite en enseignement des faits religieux, notamment sous l'influence des travaux de l'ISERL, Institut des sciences européennes des religions, j'espère pas dire bêtises, pardon, l'ISERL, c'est l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Mais l'évolution de la terminologie du fait religieux à des faits religieux, c'est sous l'influence de l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions, avec Isabelle Saint-Martin à sa tête, qui a beaucoup œuvré dans ce sens pour faire prendre en compte la diversité des faits religieux au cours des temps et à l'échelle de la planète. Création aussi un peu plus récemment de l'éducation morale et civique, toujours dans l'idée de favoriser la capacité des élèves et des futurs citoyens à faire société. On peut évoquer aussi les politiques compensatoires qui visent une meilleure égalité formelle. La loi des dimensions législatives avec la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires en 2004. Et puis la réglementation de l'encadrement des sorties scolaires qui a fait l'objet de débats plus ou moins vifs il y a quelque temps. Bon, on pourrait énumérer encore beaucoup d'éléments, des signes de cette préoccupation des politiques publiques pour la dimension des religions, des discriminations et du racisme. Je dirais que plus ça va et plus la préoccupation d'ailleurs porte plus sur les religions que sur les deux autres dimensions. Alors face à ce contexte, il faut voir que les politiques publiques en fait reposent sur deux hypothèses implicites. La première hypothèse, c'est de dire qu'une école plus juste, associée à des dispositifs ou des enseignements comme les faits religieux, l'éducation morale et civique, une formation aux valeurs de la République, tout ceci est censé résoudre les problèmes de vivre ensemble, de discrimination et de racisme. Donc cette hypothèse-là, c'est une hypothèse forte qui nous semblait intéressant de mettre à l'épreuve du terrain. Une école plus juste, à travers tous ces dispositifs, toutes ces réformes de curriculum, effectivement, résout-elle plutôt, cette école plus juste existe-t-elle, résout-elle les problèmes de, s'il y en a, et lesquels d'ailleurs, de religion, de discrimination, de racisme en milieu scolaire. L'autre hypothèse implicite des politiques publiques, c'est de penser qu'il faut plus de ressources documentaires pour les enseignants et pour les personnels d'une façon générale, et qu'en produisant ces ressources documentaires, on va aider les personnels à agir de façon plus pertinente et plus efficace. Donc ça aussi, c'était une question que nous nous sommes posées. C'est de dire, il est vrai qu'il y a beaucoup de ressources produites et finalement, qu'en font les enseignants. Alors, si on regarde maintenant du côté des professionnels de l'éducation et non plus des politiques volontaristes, ministérielles ou rectorales. Alors, du côté des professionnels de l'éducation, il y a eu deux moments qui ont permis d'avoir quelques indications sur la façon dont eux évoquaient les questions de religion, de discrimination et de racisme en milieu scolaire. Il y a d'abord eu en 2013 un colloque que le laboratoire ECP a organisé à Lyon en collaboration avec l'ISERL et l'IESR et qui s'intitulait « Les religions à l'école ». Et lors de ce colloque, nous avions organisé une table ronde pour finir, au cours de laquelle il y avait des professionnels qui sont venus expliquer et décrire ce que eux faisaient quand il y avait des problèmes relatifs aux religions, aux discriminations ou au racisme. Deuxième moment, c'est une formation organisée par l'Institut français de l'éducation au cours de laquelle j'étais intervenue et qui rassemblait beaucoup de professionnels de l'éducation nationale qui ont pu s'exprimer. Et donc là aussi, c'était une source d'information intéressante. Et ce qui ressortait de ces différentes expressions, c'était d'abord un certain désarroi, un certain désarroi qui n'était pas par rapport aux élèves, mais qui était d'abord par rapport aux injonctions qui demandent des choses qui ne sont pas toujours facilement compatibles, à la fois de dégager une élite, puis de faire réussir tout le monde, à la fois d'accompagner le groupe classe et en même temps de se préoccuper de chaque élève, d'individualiser les apprentissages, à la fois de fabriquer du commun, mais aussi de prendre en compte la diversité. Donc toutes ces injonctions sont mises au même niveau, les enseignants sont censés les prendre en compte, et ce n'est pas facile. Deuxième constat, c'est que les personnels, pas seulement enseignants, mais de direction, les conseillers pédagogiques d'éducation, les enseignants, manifestaient un sentiment d'abandon quand ils étaient confrontés à des difficultés. Alors des difficultés de nature très, très diverses, bien sûr, mais ils ne se sentaient pas vraiment soutenus. Donc ça interrogeait aussi. Et troisième point, c'est à propos des ressources, où là, il y avait une expression assez contradictoire, à la fois d'un manque de ressources, disaient les enseignants surtout, et en même temps qu'il y en a trop, on ne sait pas quoi en faire, et finalement, on n'a pas le temps de s'en occuper surtout. Dernier élément saillant de toutes ces remarques des professionnels, c'est qu'ils décrivaient surtout ce qu'ils appelaient des bricolages parfois clandestins, pour trouver des solutions quand il y avait des situations particulièrement tendues, ou surtout pour les éviter. Donc finalement, ça nous a amené à notre question initiale, mais comment ces professionnels agissent-ils quand des questions liées aux religions, aux discriminations, au racisme apparaissent dans leur travail. Donc vous voyez que la question se centre sur l'action, sur l'agir des professionnels. Nous ne nous intéressions pas, nous ne sommes pas intéressés, sauf pour les psychologues sociaux, spécialement à leur représentation, pas tellement, mais surtout à ce qu'ils font ou à ce qu'ils ont fait. Deuxième question, sur quoi s'appuie leur action et comment justifient-ils leur action? Puisque nous avions l'idée que les enseignants, dans le cadre de leur action professionnelle, comme tout professionnel d'ailleurs, justifient son action pas seulement au nom des textes officiels, mais au nom de principes politiques, de principes de référence beaucoup plus généraux qui orientent leur action, j'en reparlerai. Donc pour nous, il nous est apparu très vite qu'il fallait aborder la question de façon située, c'est-à-dire là où les gens travaillent, dans les établissements. Cinquième point, à propos des discriminations, pour que vous sachiez de quoi on parle, quand les communications diverses vont employer le mot discrimination et qu'il n'est pas besoin de refaire à chaque fois la définition. Donc on peut partir de la définition classique selon laquelle les discriminations, c'est traiter de façon inégale un groupe par rapport à un autre. Précisons que ça vaut dans une société démocratique qui se veut égalitaire. Après, il y a différentes approches, psychosociales, juridiques ou de sociologie politique, qui dominent le champ. Les approches psychosociales mettent l'accent sur les stéréotypes, sur les préjugés, tandis que les approches juridiques vont, elles, mettre l'accent sur les formes illégitimes et illégales de différenciation et donc des façons de traiter inégalement des groupes les uns par rapport aux autres. Et là, il s'agit de savoir comment pénalement réprimander, en quelque sorte, et réprimer cette situation. Mais il y a une approche de sociologie politique qui a eu notre préférence, en quelque sorte, c'est de se poser les questions aussi à un micro, à un niveau plutôt infralégal aussi, de ne pas regarder que les situations où, de façon évidente, il se pose une question de légalité, mais de se centrer justement ce qui n'est que peu abordé par les politiques publiques, à savoir se centrer sur les situations. Et la sociologie politique montre qu'il y a un rôle des institutions et des politiques publiques, mais qu'il y a aussi des micro-discriminations infralégales. Et finalement, on peut dire que l'institution, de son côté, produit aussi des publics. L'institution, avec ses personnels d'ailleurs, fabrique des catégories à travers son organisation, à travers ses façons de traiter les élèves, et qu'on sait depuis pas mal de travaux, notamment ceux de Van Zanten ou de Felouzis, que ça provoque des inégalités. Donc la question qui venait à ce moment-là, c'est qu'en est-il des professionnels de l'éducation ? Eux-mêmes identifient-ils des discriminations et que font-ils ? À partir de cet état des lieux, nous avons problématisé notre recherche et formulé quelques hypothèses très générales qui ensuite ont été spécifiées au cours de l'enquête. Donc je finis par cela. La problématisation a tourné autour des tensions entre divers principes de justice. Ces tensions concernent essentiellement trois principes de justice que je vais nommer parce que vous allez beaucoup les entendre. Un principe de justice qu'on va qualifier de civique, qui estime que l'important c'est l'intérêt général, que c'est l'égalité entre les individus qui est le plus important et que les savoirs académiques universels sont également la référence. Un autre principe de justice va plus mettre l'accent sur la liberté individuelle, sur la tolérance et avoir le souci de la coexistence entre les diversités individuelles. On est là dans la logique plus libérale. La troisième logique, qui est soutenue par un autre principe de justice, qu'on peut qualifier comme communautarienne, et ce principe de justice renvoie à l'idée que toute personne est ancrée dans une communauté et qu'on ne peut pas l'ignorer. Et que donc ce qui est juste, c'est de reconnaître ces différences et de reconnaître l'ancrage des individus dans leur communauté, voire de reconnaître des communautés, y compris dans l'espace public. Donc dans ce cas-là, l'État organise surtout la vie harmonieuse entre les communautés. Et il y a des pays qui sont organisés comme cela. Donc on voit bien qu'il y a des tensions entre les différentes logiques. Je vais passer très rapidement sur les hypothèses, parce que je ne veux pas prendre le temps aux prochains intervenants, c'est-à-dire qu'en plus de ça, nous sommes concernés avec Émilie. L'hypothèse, d'abord, c'était une recomposition du modèle républicain. Un modèle républicain qui est fondé sur une logique civique dominante, comme je viens de l'expliquer. Deuxième hypothèse, c'est qu'on pensait qu'il y avait des arrangements locaux. Ces arrangements locaux qui s'appuyaient sur des dispositifs et des objets et qui permettaient souvent à la fois de régler des problèmes, mais aussi d'éviter les débats de justice. Troisième hypothèse, c'est que dans les établissements, des professionnels, on devait développer ce que Florent Champy appelle des pratiques prudentielles. Alors, on en reparlera plus tard, donc pour le moment, je laisse le flou là-dessus. Et l'hypothèse était qu'il y a des organisations du travail qui favorisent ces pratiques prudentielles et d'autres qui les favorisent moins. Quatrième hypothèse, on faisait l'hypothèse qu'il y avait des difficultés chez les professionnels à identifier différents régimes de vérité et que cela pouvait favoriser l'expression du complotisme.